Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Nous arrivons à la fin de notre récit de Blanche-Neige, puisque Blanche-Neige a trouvé son prince et le prince a trouvé sa Blanche-Neige. Docteur Dominique Desmichel, avant d'aborder la conclusion de ce récit, où Blanche-Neige, bien sûr, va être emmenée au royaume de son amoureux, du fils de roi, j'aimerais qu'on revienne sur cette idée fondamentale qui a conclu notre émission précédente, c'est-à-dire que la plupart des contes, et peut-être la plupart des mythes, parle du féminin et du masculin et de l'équilibre à trouver entre les deux. Nous avons, tout au cours de nos émissions, abordé cet aspect-là du conte qui cherche à rétablir un équilibre dans une situation qui a été déséquilibrée entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal, et aussi, très souvent, entre le féminin et le masculin.
Oui, c'est quelque chose de très étrange que la vie et inventer la sexualité. Parce qu'il y a des tas d'organismes vivants, un peu primitifs, certes, qui se reproduisent juste en se divisant en deux. Voilà, ils se divisent en deux, et au fond, la cellule mère, on dit mère parce que c'est celle qui enfante, mais c'est pas sexué, donne une cellule fille, puis la cellule fille refait un petit peu la même chose. Donc, je ne sais pas si on sait exactement à partir de quand a été inventée la sexualité, mais l'idée de la sexualité, elle est quand même globalement simple, c'est-à-dire à partir du moment où on fait un être qui porte simplement une partie du patrimoine génétique du parent, la rencontre de cette cellule fille avec un autre différent va créer de la diversité. Donc c'est ça qui crée la diversité. Donc la sexualité, c'est quand même une invention absolument extraordinaire parce que ça va créer une multiplicité de choses. Sinon, la seule possibilité qu'il y ait une variation dans la nature, c'est une erreur dans la reproduction. Hein, si le codage de l'ADN, par exemple, c'est du stricto sensu, bah, de temps en temps, il y a une petite erreur et au lieu d'avoir un pied, il y a deux pieds. Et puis, il se trouve que les êtres vivants qui ont deux pieds, ils courent plus vite et ils se sauvent mieux de leurs prédateurs. Et donc, ils vont être privilégiés par ceux qui n'ont qu'un pied et qui marchent que sur un seul pied, donc ils fuient moins vite. Donc, la nature va faire que ceux qui ont deux pieds vont être privilégiés. Et puis, peut-être qu'à un moment, il va y avoir trois pieds, puis quatre pieds, puis peut-être dix pieds. Voilà. Puis, peut-être qu'on va s'apercevoir que finalement, la solution optimale, c'est d'avoir deux pieds ou quatre pieds. Voilà. Donc, c'est pour ça que la majorité des gens, des êtres vivants, ont deux pieds ou quatre pieds. L'autre possibilité, c'est que dans cette diversification, il y a une sorte de brassage du patrimoine génétique et que ce brassage crée la diversité. Alors en même temps, il y a probablement, on reverra ça peut-être une autre fois dans la cosmogonie grecque, il y a l'expérience au fond du manque, c'est-à-dire ce qui vient fonder au fond le désir, c'est que chacun fait l'expérience de quelque chose qui lui manque. Que ça soit un manque d'objet, ça on peut le percevoir un petit peu chacun de nous, mais aussi un manque d'être. Et on le sent probablement de manière extrêmement profonde dans le désir de rentrer en contact avec un autre et de créer un lien particulier. Alors le modèle le plus connu, c'est le modèle de la sexualité humaine, et en particulier de l'hétérosexualité, mais dans l'homosexualité, c'est la même chose, il y a toujours une figure d'autre. Cette figure d'autre, elle est ou du même sexe que soi, ou d'un autre sexe. Donc, il semble bien que la rencontre et l'union de ce masculin et de ce féminin soient en effet tout à fait fondamentales. C'est probablement une des grandes découvertes de Freud, hein.
Alors, nous parlons aussi du masculin et du féminin à l'intérieur de chaque individu.
Voilà. Alors, dans cette dimension-là, il y a au fond deux contenus du masculin et du féminin. Il y a un contenu qui est, on pourrait dire, incarné, charnel, Un homme, c'est un homme, et en dehors des petites anomalies absolument rarissimes où c'est pas tout à fait aussi clair en tant que une femme a deux chromosomes X et un homme a un chromosome X et un chromosome Y. Dans cette perspective-là, un homme, c'est clair ce que c'est, et une femme, c'est clair ce que c'est. Dans cette perception-là, il y a quelque chose qui est évident, c'est le corps qui dit une évidence. Je rappelle aussi quand même que par rapport à cette évidence, le sentiment d'appartenir à tel ou tel genre, ou tel sexe, n'est pas aussi simple que ça. Et actuellement, par exemple, on voit une explosion, au fond, une émergence en tout cas extrêmement forte de gens qui disent le sexe phénotypique que j'ai, ou le sexe génotypique que j'ai, c'est-à-dire je ressemble à un homme, ou j'ai un chromosome X et un chromosome Y, ça ne correspond absolument pas à mon ressenti. C'est-à-dire j'ai l'impression, depuis que je suis né, ou en tout cas depuis que j'ai 4 ou 5 ans, j'ai le sentiment que je suis une femme, par exemple, alors que mon corps et tout le monde me dit que je suis un homme. Et même chose dans l'autre sens, même si, au fond, cette dimension du transgenre se fait le plus souvent pour des femmes qui ont le sentiment d'être... des hommes qui ont le plus souvent le sentiment d'être des femmes. Troisième articulation, il y a à l'intérieur de ce masculin et de ce féminin quelque chose qui est construit par la société. Toutes les gender studies là, de ces dernières années ont montré qu'on n'appelait pas ça le sexe, on appelait ça le genre. C'est-à-dire le genre, en gros, c'est le sexe construit à partir d'une culture. Probablement, cette dimension-là, du masculin et du féminin, est très structurée par une culture. C'est-à-dire, les hommes, ça fait ceci et ça fait cela, et ça fait pas des tas de choses, et les femmes, ça fait ceci ou cela. Les hommes sont pas doués pour la cuisine, et les femmes savent pas lire des cartes routières, par exemple, ou des tas de choses comme ça. Cette dimension-là est très importante. Et puis, quatrième dimension, et c'est celle que vous soulignez, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a cette dimension masculine et féminine. Et on pourrait dire que là, il y a une sorte d'archétype à l'intérieur de nous-mêmes, une sorte de logiciel qui nous fait, qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change rien, développer une polarité masculine, développer une polarité féminine.
Alors, dans notre histoire de Blanche-Neige, nous allons voir que cet équilibre va se recréer. Nous avions d'un côté Blanche-Neige et sa belle-mère. Nous avions le prince d'un autre côté. Je mets Léna un petit peu à part parce que nous en avons parlé. Ce sont des êtres, justement, qui ne sont pas tout à fait humains. Et là, le fils de roi va emmener Blanche-Neige au château du roi, son père. Et nous avons cette polarité qui va être parfaite.
Oui. Moi, je dirais plus exactement, il va emmener Blanche-Neige dans le royaume de son père et de sa mère. C'est-à-dire, très souvent, on se dit, bon, ça va, Blanche-Neige a rencontré son prince, le prince a rencontré Blanche-Neige, tout le monde est content, happy end, voilà, on va faire autre chose. Non, la suite est à mon avis très importante, parce que tout le monde sait que les pulsions de répétition au fil des générations, c'est quand même quelque chose d'extrêmement prégnant. Et au fond, on pourrait se dire, qu'est-ce qui va se passer ? Il va juste se passer que Blanche-Neige, elle va devenir aussi pénible que sa mère. C'est-à-dire d'abord, elle va vouloir avoir un enfant avec le prince. Elle va avoir un enfant qu'elle va peut-être vouloir aussi blanche, rouge et noire. Et puis le prince, lui, finalement, il ne va pas pouvoir exister. Et Blanche-Neige va se révéler, en fait, être aussi pénible, aussi insupportable, aussi autoritaire, aussi jalouse. Et si par malchance, elle a une fille, elle va se sentir... dans un enjeu de rivalité narcissique. Elle va pas être capable de mûrir. Déjà, on s'aperçoit que Blanche-Neige, elle est quand même pas très très mûre. Si elle a eu une enfant, ça va. Mais après, il faut quand même qu'elle mûrisse et qu'elle lâche quelque chose. Et en particulier, qu'elle puisse dire à sa fille, mais t'es bien, bien plus belle que moi et ça me fait immensément plaisir que tu sois bien plus belle que moi. Voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants. Or là, dans le conte, il y a une précision qui est très très importante. C'est-à-dire, le prince emmène Blanche-Neige dans un royaume, le royaume de son père et de sa mère. C'est-à-dire, on peut penser que dans cette royauté, c'est-à-dire, au fond, dans cette autre parentalité, là, il y a un couple qui tient la route. C'est-à-dire, il y a un père qui tient sa place et il y a une mère qui tient sa place. Avec une mère qui n'est pas dans une immaturité, une blessure narcissique absolument terrifiante, voilà. Et un père qui sait dire, par exemple, à son épouse, « Mais nos enfants grandissent, faut les laisser vivre. » Et d'ailleurs, on peut penser que ce peut-être ce prince-là, ça n'a pas été très très simple pour lui, peut-être de se détacher de sa mère, on ne sait pas trop, puisqu'il a bien fallu quand même qu'il aille un peu dans sa forêt, dans son inconscient, dans son intériorité la plus profonde, pour rejoindre quelque chose de sa figure intérieure, c'est-à-dire de son anima, qu'il a projeté sur Blanche-Neige.
Alors, l'histoire ne s'arrête pas là pour la méchante reine, car comme dans beaucoup de contes, elle va subir le châtiment qui lui est destiné.
Alors là aussi, moi j'adore ces petits codicilles, vous voyez, parce qu'on pourrait se dire, Blanche-Neige, l'histoire s'arrête là. Ben non, le conte, il nous rajoute des tas de choses. Vous verrez, quand on s'occupera de l'histoire du petit poussé, vous verrez qu'à un certain moment, l'histoire est close, puis ça pourrait s'arrêter là. Ben non, il y a une suite. Et j'essaierai de vous montrer combien cette suite est extrêmement importante, parce qu'elle vient dire, on ne va pas être dans la répétition, il y a quelque chose qui est en arrière-plan dans la première histoire, et il faut résoudre cet arrière-plan de la première histoire. Donc là, on pourrait se dire, ça y est, les nains, on n'en parle plus, ils sont une puissante vivifiante inconsciente, ils sont retournés dans l'inconscient, on n'en parle plus. Par contre, la mère, elle est toujours là, hein, et au fond, Blanche-Neige, elle a toujours une mère, hein, ou une double mère, une bonne mère et une mauvaise mère. Voilà, donc la méchante reine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit sa logique interne, et puis elle n'a de cesse que de vouloir aller au mariage de sa victime de prédilection, et qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va être tout à fait châtiée par la mort. Et le rêve, le conte nous donne des petits détails, puisque elle est condamnée à chausser des souliers, et chausser des souliers, vous voyez, c'est toujours aussi quelque chose qui est de l'ordre d'un rapport de couple. Hein. On dit trouver chaussure à son pied, on sait bien que dans le conte de Cendrillon, la reconnaissance, ça va être par le biais de la chaussure. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose d'un contenant et puis d'un contenu. Hein. Voilà, il y a une sorte de mise en scène sexuée ici dans le pied qui rentre dans la chaussure. Donc elle reproduit au fond une sorte de mise en scène sexuée abusive, mère de type mère-fille, et les sabots métalliques là, ou les chaussures métalliques
sont chauffés à blanc,
voilà. On retrouve aussi cette même couleur avec le blanc, le rouge et le noir. Ici, il y a le rouge du feu dévorant, hein, le feu du charbon d'ailleurs, qui est l'alliance du noir de la houille et puis du rouge de la braise. En tout cas, ce n'est pas le feu de l'amour.
Alors, vous vouliez, docteur Dominique de Michel, insister sur un détail du conte qui est celui du temps, qui est un temps qui se passe assez bizarrement, il est vrai, dans cette histoire.
Oui, alors ça, c'est une fois, on en avait discuté avec un de mes amis qui s'appelle Claude et qui me faisait remarquer en effet que le temps était un petit peu particulier ici. Puisqu'au fond, dans le début du conte, il y a comme un désir. Hein. Cette femme très belle, la reine, la première femme symbolique du début, elle est comme un peu hors du temps. Ça se joue dans sa nuit, dans une certaine mesure, puisqu'on est au cœur de l'hiver, hein, donc dans quelque chose qui est en attente, quelque chose qui est un peu comme Blanche-Neige dans son cercueil. Ça ressemble à de la mort, mais c'est pas tout à fait mort. On sait bien, là, on commence à rentrer dans le printemps. En gros, on sent bien qu'il y a la sève qui remonte dans les arbres, mais qu'il y a aussi la sève qui remonte dans nos branches à nous. À midi, avant de venir, je faisais mes courses, là, et la caissière me disait, parce que je lui disais, « Ah, vous avez l'air un peu fatigué. » Alors, commençait à raconter un petit peu. Elle disait, « Ah, quand même, un peu de soleil, ça nous ferait du bien. » Donc, voilà, il y a ce temps de l'hiver, il y a ce temps de la nuit. Et donc, il y a ce temps suspendu, au fond, on pourrait dire, au début du conte. Puis, il y a cette naissance qui, elle aussi, est normalement une éclosion de la vie et qui est associée à la mort, puisque la première mère meurt. Et puis ensuite, il y a ce temps de latence très long avec la jeune fille qui grandit, la marâtre qui se tait.
Puis des années qui passent sans qu'on ait de véritables repères chronologiques également.
Exactement. Oui, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, c'est vrai qu'on peut très bien imaginer que tant que l'enfant reste une enfant, en tout cas quand la fille reste une enfant, elle ne soit pas dangereuse pour la mère. Hein. À partir du moment où elle va devenir un petit bout de femme, au fond, il peut y avoir quelque chose ici qui va être ressenti comme dangereux par la mère parce qu'elle voit le regard des cousins et des cousines, de ses neveux et de ses nièces, enfin voilà, qui tourne autour de sa fille, voilà, ou peut-être même son mari qui lui dit « Ah non, elle est quand même mimi, notre fille, voilà. » Et en étant toute très, très fière et presque un petit peu émoustillée de ça. Voilà, et puis, Et puis il y a ensuite ce temps qui a l'air d'être un temps qui pourrait être extrêmement, extrêmement long, qui est le temps dans la forêt. Je pense, à partir un petit peu du film, on a l'impression que ça va durer quelques jours, quelques semaines. Je pense qu'il vaut mieux le penser comme un très long temps de maturation. C'est-à-dire, voilà, à l'intérieur d'elle-même, dans ce temps régressif, Blanche-Neige, elle se reconstruit. Au contact des nains, elle est capable aussi de transformer le minerai de fond apporté, c'est-à-dire le minerai énergétique apporté par les nains, en une puissance psychique hein, pour grandir. Voilà, on va retrouver ça d'ailleurs dans la mythologie avec Cronos. Hein. Cronos, c'est le deuxième dans la lignée, puisqu'il y a Ouranos, Cronos et puis ensuite Zeus dans la mythologie grecque. Et c'est intéressant parce que Cronos, très souvent, les gens, ils savent pas très bien comment ça s'écrit. Hein. Si ça s'écrit Cronos, Chronos, ou si ça s'écrit avec un H. Et alors, ceux qui connaissent l'orthographe disent ça s'écrit avec un H. Et puis les autres disent oui, mais moi, je l'ai vu écrit Cronos. Et en fait, ce qui est vraiment très, très intéressant dedans, c'est que le mot change. C'est-à-dire, d'abord, il s'appelle Cronos. 100 ans, et à partir du moment, on va le revoir un peu plus tard, où il y a une irruption du temps, c'est-à-dire au fond, la première lignée des titans va mourir, c'est-à-dire où il va y avoir l'apparition d'une génération, c'est-à-dire des enfants qui vont pouvoir vivre, alors il y a la notion d'une filiation, et au fond, il y a un temps qui arrive, c'est-à-dire avec des parents qui grandissent, qui vieillissent et qui meurent, et des enfants qui font la même chose.
Alors, docteur Dominique Desmichets, nous arrivons vraiment à la conclusion de ce conte. Comment pourrait-on le résumer? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, une première lecture, qu'est-ce que vous proposeriez?
Ben, moi, je crois que les contes, ils sont vraiment d'actualité. C'est-à-dire, on peut prendre du temps pour réfléchir très en profondeur, mais on peut aussi se laisser habiter par l'espèce de magie du conte qui nous parle de quelque chose. Et au fond, ça veut dire quoi? Ben ça, c'est un conte qui est fait au fond pour les jeunes filles et peut-être de manière symétrique aussi par les jeunes, pour les jeunes garçons. Et ce conte, il est là pour leur dire, vous pouvez avoir des mères jalouses de votre jeunesse. Vous pouvez avoir des mères qui ne supportent pas que on les regarde moins elles et qu'on vous regarde vous parce que vous êtes parce que vous êtes belle et puis parce que vous avez l'âge où on vous regarde quoi. C'est tout à fait normal. Vous pouvez avoir des mères qui ne supportent pas de voir leur corps changer, c'est-à-dire de ne pas avoir les mêmes performances. Voilà. Vous pouvez avoir des mères qui passent 3 heures dans la salle de bain pour faire disparaître une demi-ride que personne ne voit, mais qui, pour elles, les défigure. Vous pouvez avoir une des mères qui ne supporte pas d'avoir pris 3 kilos et qui pense qu'elles ne sont plus désirables. Voilà. Ça peut être quelque chose qui est extrêmement, extrêmement délétère si l'identité narcissique, c'est-à-dire l'amour d'elle-même, l'estime d'elle-même de ses mères, est vraiment chancelant. Hein. Et ça peut vous atteindre parce que cette partie-là de vous qui représentez la jeunesse, qui est en train de se perdre chez cette mère, va devenir détestable en raison de cette rivalité.
Et nous avons une deuxième lecture, plus psychanalytique, où tout ce qui est vécu dans cette histoire serait vécu intérieurement, évidemment, par Blanche-Neige.
Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, à l'intérieur d'une jeune fille, il peut y avoir cette figure de la mère qui a été une figure qui, par exemple, s'est inscrite dans l'enfance. Hein? C'est-à-dire, des enfants peuvent avoir des mères qui sont comme ça, mais ensuite qui démarrent quand elles ont eu 50 ans, ou voilà, ont accepté le temps qui passe, ou elles ont été grand-mères et ensuite elles se sont dit, bon, allez, la belle que tout le monde regarde et où tous les hommes lui font la cour, c'est plus pour moi, mais je suis tellement contente d'être grand-mère, voilà, ou de faire d'autres choses, ça va bien. Mais à l'intérieur de ces filles peut rester une figure dangereuse, hein, de ces mères. Et cette figure dangereuse va les empêcher de vivre, hein. Ou dans une dimension de rivalité, ou dans une dimension d'impossibilité d'avoir une estime d'elle-même, d'avoir un contenu narcissique suffisamment solide pour exister et permettre une rencontre.
Docteur Dominique Desmichets, ben, cette émission touche à sa fin. Alors, faites-nous un petit peu envie. Qu'est-ce que nous allons voir dans les prochaines émissions? Car ça ne s'arrête pas ici pour notre histoire de Blanche-Neige et notre exploration autour du thème de la beauté, je le rappelle, car nous allons essayer de trouver des parallèles avec la mythologie.
Voilà, donc je vais vous proposer qu'on explore ensemble le mythe de Psyché et Eros. C'est une très belle histoire, c'est une histoire mythologique, mais qui, à mon avis, ressemble plus à un conte qu'à un mythe. Et puis, on va ensuite essayer de s'interroger sur... Mais qu'est-ce que c'est que cette beauté ? Parce qu'on a beaucoup parlé de la beauté. La beauté, tout le monde en a une petite idée. Donc, on va essayer de voir en quoi, au fond, il pourrait y avoir quelque chose qui ne serait pas à sa place dans la question de la beauté de la reine.
Docteur Dominique Michel, merci beaucoup.
Merci Simon. Au revoir. Au revoir.
Given fields, mountains of steel. times come to show, I'm told nothing more.